Gracieusement et généreusement traduit par Robert Geoffroy, www.geoffroyrobert.com. Comme je l'indique souvent, il est utile, tandis que nous sommes assis ici, d'être conscient du moment présent, et de votre présence ici, de sentir votre présence, non pas votre activité mentale, mais une présence plus profonde sans laquelle la pensée ne pourrait pas se produire. Simplement sentir ce qui ne peut être défini, cette dimension en vous qui n'a rien à voir avec la personnalité, mais sans laquelle la personnalité ne pourrait pas exister. Cela n'a rien à voir avec les émotions, mais sans cette dimension, les émotions ne pourraient pas être. Rien à voir avec les pensées, ni avec les perceptions sensorielles, mais sans laquelle les pensées et les perceptions sensorielles ne pourraient même pas être. C'est la présence. Et c'est inséparable de la profondeur de ce que nous appelons le moment présent. Donc, dans la dimension de la profondeur, ce que nous appelons le moment présent, qui est de loin plus que la surface du moment présent constituée de tout cela, dans la dimension de la profondeur, vous et le moment présent êtes un. La traduction de cela en mots, vous et le moment présent, être ultimement un au sens le plus profond. Je ne l'avais pas encore formulé quand j'ai écrit Le pouvoir du moment présent, et malheureusement, cela ne figure donc pas dans le livre. Votre vie durant, il y a donc quelque chose qui ne change jamais dans la dimension de la profondeur. Vous pouvez l'appeler le maintenant, l'espace du maintenant, non pas ce qui arrive dans cet espace, mais l'espace le plus profond du maintenant. Vous pouvez dire encore qui vous êtes en votre essence. La dimension sans forme, la dimension spirituelle. L'essence de la spiritualité consiste à ressentir cela au second plan de votre être. Vous êtes alors moins dépendant de l'extérieur, des apparences. Et c'est une grande libération, ne pas dépendre des choses superficielles pour votre sentiment de bonheur, de vie, d'épanouissement, parce que sans discontinuer, ça va, ça vient. Bon, ils aiment que nous ayons un sujet bien défini pour mes causeries ici. On va alors l'intituler Dégager des apparences de l'extérieur. Pour l'introduire, j'ai envie de vous lire une histoire vraie, très courte, d'une minute environ. Elle vient de la tradition soufie, la branche mystique de l'islam, une forme profondément paisible de l'islam. Oui, cela existe. J'aimerais bien consacrer bientôt toute une séance aux soufis. Ils sont merveilleux. Donc, je vais vous lire cette petite histoire vraie, extrêmement courte, qui a à voir tout du long avec le fait d'être dégagé des apparences. Le titre de l'histoire est L'esclave sans maître. Errant dans un vêtement en patchwork, le visage noirci par le soleil, un certain derviche, les derviches sont une sorte de mendiants soufis, errant dans un vêtement en patchwork, le visage noirci par le soleil, un certain derviche arriva à Koufa, où il fut aperçu par un commerçant. Le commerçant parla au derviche et conclut qu'il devait être un esclave perdu. Et le commerçant dit: Vu tes bonnes manières, je vais t'appeler Kahir, ce qui veut dire bon. N'es-tu pas un esclave? C'est ce que je suis, répondit Kahir. Le commerçant dit: Je vais t'emmener chez moi et tu pourras travailler pour mon compte jusqu'à ce que je trouve ton maître. J'aimerais beaucoup, dit Kahir, car je suis à la recherche de mon maître depuis si longtemps. Il travailla de nombreuses années pour cet homme qui lui apprit le métier de tisserand, d'où son nom, son second nom, Nassage. Son nom devint donc, si je le prononce correctement, Kahir Nassage, le bon tisserand. Après de longs services et se sentant coupable de l'avoir exploité, le commerçant lui dit: Je ne sais pas qui tu es, mais tu es désormais libre de partir. Kahir Nassage, le grand maître du chemin, poursuivit sans regret son voyage jusqu'à la Mecque, car il avait découvert comment continuer son évolution, bien qu'il ne portât pas de nom et qu'il fût traité comme un esclave. Il a été l'enseignant de Shibhili, d'Ibrahim Kavas et de beaucoup de grands enseignants des soufis. Il est mort il y a plus de 1000 ans, à l'âge de 120 ans. C'est un exemple plutôt extrême d'une personne qui pratique le fait d'être dégagée de la dépendance des conditions extérieures. Je crois que ce soufi, devenu plus tard un maître soufi, a volontairement déclaré: Oui, je suis un esclave. Il acceptait cette situation en tant qu'arrière-plan de sa pratique. Maintenant, il est dit dans l'histoire qu'il a pu poursuivre son évolution intérieure, bien qu'il ne portât pas de nom, sinon celui que quelqu'un lui avait donné, et en étant personne. Et quelle est cette évolution intérieure à laquelle se réfère l'histoire, poursuivre l'évolution intérieure? C'est la dissolution de toute sorte de notion mentale ou conceptuelle de son identité, de l'identité en tant que forme, de sorte que ce qui est en vous, qui est au-delà de la forme, puisse émerger plus pleinement. Et à mesure que ce qui est en vous, qui est au-delà de la forme, qui est un profond sentiment de vie et de paix, émerge de l'intérieur, en dépendant de moins en moins de votre mental et des autres pour vous dire qui vous êtes, vous relâchez cette dépendance. Vous vous dégagez complètement des apparences. Il arrive parfois quand des conditions extérieures deviennent particulièrement désagréables ou difficiles qu'il y ait au début une résistance intérieure, une profonde souffrance. Et parfois, un point est atteint où la résistance, qui est bien sûr constituée de jugements mentaux sur votre situation, où la résistance est abandonnée. Vous arrêtez de penser quoi que ce soit à propos de votre situation. Elle est simplement telle qu'elle est. Vous commencez alors à vous détacher des conditions extérieures. Mais nous n'avons pas besoin d'attendre de nous retrouver sur le pont du Titanic en train de sombrer, ni de sombrer dans une autre situation similaire. Nous n'avons pas à attendre cela. Cela peut arriver. Cela peut ne pas arriver et il n'y a pas de garantie qu'il y ait alors une complète acceptation. Il semble pratiquement impossible d'accepter complètement certaines situations. Commençons avec des choses plus simples. Et examinez votre propre vie et voyez dans quel domaine de votre vie vous dépendez de conditions extérieures pour votre bonheur ou votre bien-être, pour votre sentiment d'épanouissement et peut-être la facilité avec laquelle un changement dans les conditions extérieures peut immédiatement provoquer un changement de votre état intérieur. Vous pouvez voir, par exemple, en faisant la queue quelque part, un peu plus longtemps que ce que vous pensiez, que vous commencez à être irrité. Ça fait 10 minutes que j'attends. L'irritation est bien sûr une pensée. Ça fait 10 minutes que je suis ici et c'est trop long. Dès que vous avez la pensée, c'est trop long, ils devraient faire quelque chose, qui que ce soit, ils devraient faire quelque chose, ça n'est pas juste. Le corps répond par une émotion. Il y a donc la situation, c'est magnifique d'examiner ça parce que quand vous le voyez en vous, c'est déjà le début d'un éveil. Il n'y a pas de défaut personnel en vous. Vous vous dites, oh, j'ai fait ça quand j'ai fait la queue ce matin. Que vous ayez fait ça, c'est parfaitement normal. Mais la réalisation que vous avez fait ça, c'est le début d'un éveil. C'est bien sûr un éveil encore plus profond si vous réalisez la chose en même temps que vous la faites. Il est un peu plus facile de le réaliser après coup parce que l'énergie derrière la pensée n'est plus si forte. Bon, revenons à cette situation. La vie est bien sûr constituée de choses de ce genre, de ces petites choses. Tous les jours, des choses arrivent et vous êtes contrarié, c'est normal. Mais la contrariété est le début de votre souffrance. L'irritation est une forme légère de souffrance. Vient ensuite la colère et avec elle la lamentation et toute l'agitation mentale. Donc, restez avec une simple chose parce que le mécanisme de la chose simple demeure le même avec des choses plus grosses. Comme vous perdez la paix intérieure si facilement. Rien de personnel ici, et beaucoup d'entre vous ont déjà dépassé ça. Je parle à ces quelques-uns. Et les autres peuvent simplement en profiter. Comme c'est facile de perdre la paix intérieure pour des petites choses. Pour des petites choses, attendre trop longtemps, quelqu'un qui ne me traite pas comme il devrait me traiter, quelqu'un de désagréable, de grossier, quelqu'un dans la circulation qui fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire, toutes sortes de petites choses, vous cassez quelque chose, vous perdez une petite chose et vous ne réalisez pas que la chose la plus précieuse est votre état intérieur. La paix intérieure. Par paix, je n'entends pas une paix triste où vous vous désensibilisez et dites « Je ne sens pas, je me sens ok », mais vous ne vous sentez plus vivant. La véritable paix intérieure est un sentiment profond de vie. Se sentir épanoui et inséparable d'une sorte de joie, non pas nécessairement d'une joie extatique, vous ne passez pas votre vie en « Waouh ». Certaines personnes essaient, mais vous ne pouvez le faire durablement. Non, un champ d'énergie paisible et vivant au second plan, en arrière-plan. C'est la paix intérieure, c'est la chose la plus précieuse dans votre vie, de loin plus importante que là où vous êtes ou ce qui se passe autour de vous. Et vous l'avez oublié à cause des habitudes mentales. Vous perdez la paix intérieure si souvent. Donc, une fois que vous en êtes conscient, vous pouvez observer le mécanisme de la manière dont vous la perdez. La rapidité avec laquelle ça peut arriver. Quand vous êtes vraiment vigilant, vous pouvez voir que c'est le mécanisme qui se trouve derrière. Et bien sûr, ce mécanisme est une pensée qui émerge et qui dit quelque chose comme « ça ne devrait pas arriver ». C'est une plainte ou une autre réaction. La pensée, mais vous ne savez pas que c'est seulement une pensée. Pour vous, c'est inséparable de la situation. Donc, si vous ne savez pas que la pensée que vous avez à propos de la situation est à séparer de la situation, c'est de l'inconscience. Parce que vous en venez alors à dire « s'il pleut, c'est une journée horrible ». Vous avez mélangé un jugement avec une condition extérieure. C'est une journée horrible, sans réaliser que l'horrible est votre jugement mental et que la journée est comme elle est. Ou si vous dites faire la queue si longtemps ici, c'est terrible. Non, vous avez mélangé deux choses, le jugement et la situation. Si vous les distinguez l'un de l'autre, vous voyez, ici, il y a ce qu'il y a, et là, il y a ce que mon mental en dit. Et tout à coup, vous remarquez qu'en croyant complètement à tout jugement qui émerge, vous perdez immédiatement la paix. Vous devenez dépendant des conditions extérieures pour votre bonheur. Donc, une fois que vous le voyez, vous pouvez vraiment soit ne plus croire au jugement, soit même l'abandonner. Et quand vous réalisez votre pouvoir de le faire pour la première fois dans une situation où vous vous seriez plaint habituellement, où vous auriez été irrité ou en colère, vous vous dites subitement « Oh, je ne me plains plus, je ne suis pas irrité. » Ou la pensée surgit et vous vous dites « Ok, c'est la pensée et voilà ce qui est. » Je reste simplement avec ce qui est. Tout ce que fait la pensée, c'est ajouter de la souffrance. La situation peut être physiquement inconfortable, mais il n'y a pas de souffrance. Elle est comme elle est. C'est une énorme libération quand vous pouvez vous retrouver dans un endroit où votre mental aurait déclaré « Je ne veux pas être ici ». Oui, mais vous êtes ici. Et vous pouvez donc être ici sans aucun jugement. Et soudainement, c'est « Ok ». C'est ainsi qu'on commence à se dégager des apparences, se détacher du monde extérieur. Et c'est une libération, c'est une pratique à continuer avec toutes les petites choses qui se produisent au cours de la journée. Vous pratiquez de cette façon, de sorte que vous rencontriez peu à peu les situations diverses sans jugements mentaux. Et vous continuez de savoir ce que vous avez à faire. Le mental déclare « non, dans ce cas, je ne ferai plus rien ». Vous savez toujours ce que vous avez à faire. Vous pouvez passer à l'action, mais non pas à partir de la condamnation ni d'une énergie négative. Se dégager des apparences est bien sûr une partie essentielle de l'éveil spirituel. Nous laissons de côté les situations extrêmes qui sont relativement rares. Certes, il est également fort utile de les considérer, mais travaillons avec la vie quotidienne normale. Les gens. Au cours de votre éveil spirituel, le plus gros défi, ce sont les autres. La plupart des gens sont identifiés à leur mental et ils peuvent facilement vous inciter à vous identifier à votre propre mental. Et la question est de savoir si vous êtes capable d'accepter l'autre humain tel qu'il est en l'instant, tout comme vous acceptez l'endroit où vous vous trouvez, la situation dans laquelle vous vous trouvez, sans en appeler à votre mental pour vous dire des choses à propos de cette situation. C'est quelque chose à pratiquer, à essayer continuellement dans votre vie. Ce qui survient alors de plus en plus, c'est une conscience qui n'est pas conceptuelle, une intelligence qui n'est pas conceptuelle. Et elle n'est pas seulement passive, elle commence à agir dans votre vie. Elle prend la place de ce qui agissait avant, à savoir l'identité fabriquée par le mental, basée sur la pensée, avec son conditionnement et son positionnement réactionnel. Elle demande quelle est la prochaine chose contre laquelle je peux réagir. Beaucoup de mentaux humains ou de mentaux égoïques recherchent la chose suivante contre laquelle réagir. Ils ne le savent évidemment pas, et la moindre chose que vous dites ou faites t'aurais mieux fait de ne pas dire ça. Ainsi, les choses habituelles qui font votre vie, le soi égoïque, constitué des schémas mentaux habituels, est peu à peu remplacé par une intelligence plus profonde qui n'est pas conceptuelle et qui ne porte pas de jugement. Elle se révèle et regarde le monde sans imposer aucun jugement. Et à ce moment-là, quoi qu'il arrive, vous êtes dégagé de la dépendance des conditions extérieures, parce que vous ne dépendez des conditions extérieures pour votre état intérieur que tant que vous croyez en vos pensées et à propos des conditions extérieures. Les conditions extérieures comprennent les endroits, les situations et les gens. Dans des traditions anciennes, d'une manière très extrême, des gens ont reconnu cette vérité et ils en ont fait une pratique. « Ok, je vais devenir un mendiant, renoncer à la dépendance de toute chose et errer de lieu en lieu sans rien. Je vais abandonner toute dépendance des conditions extérieures en tant que pratique spirituelle. Ce n'est pas réalisable en Occident. » C'est quasiment impossible à faire. Il manque pour cela tout le contexte culturel. Il nous faut le faire d'une autre manière. Si vous voulez être un mendiant, vous pouvez encore le faire en Inde. En plus, bien sûr, beaucoup d'endroits en Occident sont trop froids pour être un vagabond sans domicile fixe. J'ai fait l'expérience de rester SDF pendant un temps et ce fut une belle expérience. Cela aurait pu être terrible si mon mental avait encore eu des jugements à ce sujet. Mais étant donné que le mental avait déjà renoncé à se plaindre, à juger mauvaise toute situation, à juger ma vie inutile ou à avoir certaines opinions sur qui je suis. Sans ces opinions, sans ces structures mentales, le moment était simplement tel qu'il est toujours. C'est alors merveilleux d'être capable d'apprécier l'état de vie de ce moment, quelle que soit la forme qu'il prenne. C'est la pratique. Maintenant, il vous faut encore travailler avec le mental et être vigilant de sorte que vous puissiez être là quand le mental émet des pensées. Ne croyez pas au jugement de votre mental. Ne comptez pas sur les jugements de votre mental. Soyez la conscience plus profonde, la conscience inconditionnée derrière le mental. Les défis de la vie sont très utiles. Sans ces derniers, vous vous endormiriez. Des gens se plaignent et disent « Je voudrais avoir une vie plus favorable au travail spirituel. Je voudrais avoir plus de temps pour faire vraiment ce que je veux. » Si c'était le cas, pour que les gens puissent créer de grandes choses, ces gens qui ont eu les conditions parfaites dans leur vie pour créer, les aristocrates des siècles derniers auraient été de grands artistes, écrivains ou philosophes. Mais étrangement, très peu d'entre eux l'ont été. Ils avaient tout, ils n'avaient pas besoin de travailler, ils identifiaient tous les autres comme étant le prolétariat, la classe ouvrière. C'est de là que vient le nom, parce qu'il y avait une autre classe qui ne travaillait pas. Il y avait donc cette classe qui vivait sur leurs terres, leurs possessions, dans de grandes maisons, dans des châteaux en France, dans des hôtels particuliers en Angleterre. Certes, ils étaient très cultivés, ils lisaient beaucoup de choses, ils avaient des tableaux de maîtres dans leur maison. En réalité, très peu d'entre eux sont devenus des artistes, des philosophes, des peintres, des écrivains, des scientifiques, très peu. Ils auraient dû être bien plus nombreux en proportion parce qu'ils avaient les soi-disant conditions idéales. Ils n'avaient pas besoin de travailler pour vivre. Non, leur vie était insuffisamment concentrée. Ils menaient une vie dissipée. Souvent, les grands créateurs étaient des gens qui devaient lutter très dur contre les pires obstacles. Et il y a la même chose dans le domaine de la spiritualité, pour autant que l'éveil spirituel soit concerné. N'exigez pas de meilleures conditions pour l'éveil spirituel. C'est une chose très courante. C'est bien sûr une création mentale. Le mental aime ça. Le mental aime se plaindre aussi à propos de votre situation et sur le fait qu'elle ne soit pas propice à votre éveil spirituel. Ah, si elle était différente, oui, si je pouvais me permettre, si j'avais assez d'argent pour voyager comme l'a fait cette femme qui a écrit ce livre dont on a fait un film. Si j'avais l'argent pour faire cela, je pourrais explorer, je pourrais aller rencontrer des maîtres, là, ça irait. Je pourrais vraiment m'occuper de mon corps pour qu'il n'ait plus toutes ces douleurs. Je pourrais aller dans les plus grandes stations thermales et me faire masser tous les jours, me reposer sur des pierres chaudes, être couvert d'huile et de pétales de rose. Et c'est sûr, je pourrais alors être illuminé très rapidement. Maintenant, si vous deviez essayer, supposons que vous avez assez d'argent, revenez dans quelques années pour me dire comment ça se passe. Vous remarquerez que ça ne marche pas. Ce qui semble au mental être la situation la plus favorable pour l'éveil spirituel ne l'est pas nécessairement pour votre propre éveil spirituel. Ce n'est que l'opinion du mental. Malheureusement ou heureusement, ce n'est pas la réalité. Et étrangement, la réalité est que la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment même est celle qui est la plus juste pour vous, qui est propice à votre travail d'éveil spirituel. Cette situation est juste.